Le journal présenté par Laura Dulieu.
Bonsoir à toutes et à tous. Le Parlement britannique refuse l'examen accéléré de l'accord sur le Brexit. Un revers pour le gouvernement qui a suspendu l'examen du texte en attendant la décision de l'Union européenne sur une éventuelle extension de la date de sortie. Un accord qualifié d'historique par Recep Tayyip Erdogan. Un accord avec Vladimir Poutine sur le nord de la Syrie et qui exige le retrait total des forces kurdes de la zone. Les explications d'Éric Biegala dans ce journal. Et Vladimir Poutine qui sera demain au sommet Russie-Afrique. La Russie ne cache plus son objectif de revenir sur le continent. François Soudan, directeur de la revue Jeune Afrique, est l'invité de ce journal. Enfin, le patron du groupe Lubrizol a été entendu par les députés et les sénateurs aujourd'hui après l'incendie de son usine à Rouen. Selon lui, il n'y a aucun risque sanitaire. La perspective d'un Brexit le 31 octobre s'éloigne donc encore un peu plus. Le Parlement britannique a certes accepté la loi d'application du Brexit, ce qui permettrait l'examen du texte dans les détails, mais il a refusé le second texte, à savoir l'examen accéléré de l'accord. Un calendrier voulu par Boris Johnson pour pouvoir sortir de l'Union européenne à la date prévue. Résultat, le Premier ministre britannique a suspendu l'examen de l'accord car il doit attendre la réponse de l'Union européenne. Le président du Conseil européen Donald Tusk consulte en ce moment même les 27 dirigeants européens sur la demande de prolongation de la date du Brexit au 31 janvier 2020. Du coup, 31 octobre ou pas, en France, les chefs des petites et moyennes entreprises avancent à tâtons sur la question du Brexit. La Confédération des PME a tenu tout à l'heure une conférence de presse à Paris sur le sentiment des patrons. Selon elle, 43% des PME se disent concernés par le Brexit et parmi celles-ci, 35% affirment s'être préparés pour affronter une sortie du Royaume-Uni de l'UE. Les PME répondent ainsi à Bercy qui leur reprochait leur attentisme il y a quelques jours. Pauline Renoir a rencontré deux patrons de PME qui ont imaginé plusieurs scénarios de Brexit.
Deux Français aujourd'hui face à une équation à plusieurs inconnus. Il leur faut anticiper des pertes à l'export en cas de Brexit, une augmentation des taxes et surtout des heures d'attente à la douane pour franchir la Manche. Gary Haworth est le directeur général de Toutprêt, une entreprise française de fabrication d'enduits. Il vient de tripler son stock de marchandises près de Londres pour satisfaire ses clients anglais sans avoir à traverser la Manche.
Avant, nous avions 300 emplacements de palettes dans cet entrepôt. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000. De l'argent dans les stocks, c'est de la trésorerie de plus, mais bien évidemment, nous considérons que c'est un investissement utile et important pour assurer le bon service à nos clients. Ce que nous ne savons pas, c'est que quel sera l'impact des difficultés autour de Calais, soit au port, soit à l'Eurotunnel.
Ce patron de PME a aussi lancé un groupe d'analyse des conséquences du Brexit au sein de son entreprise. Ils ont imaginé les nouvelles normes auxquelles les enduits qu'il exporte pourraient être soumis, car ce sont des produits chimiques. David Sagnard, lui, est à la tête des Transport Carpentier, une PME qui réalise un tiers de son chiffre d'affaires avec la Grande-Bretagne. Si Brexit dure, il s'attend à des embouteillages à Calais, là où ses chauffeurs prennent leur départ.
C'est plus qu'une difficulté, ça sera vraiment catastrophique. Lorsque vous immobilisez l'ensemble des véhicules, vous perdez 700 euros de chiffre d'affaires par véhicule, vous le multipliez par le nombre de camions dont dispose l'entreprise, chez nous 70, vous arrivez facilement à plusieurs dizaines de milliers d'euros perdus pour l'entreprise, par jour, puisqu'on ne sait pas les récupérer et c'est vraiment de la perte sèche.
Et pour retourner la situation en sa faveur, David Sagnard vient d'acheter un parking de 300 places à Calais pour les poids lourds en transit vers le Royaume-Uni. Un investissement qui pourrait faire un flop en fonction de la tournure que prendra le Brexit.
Pauline Renoir, après plus de 6 heures de discussion en tête-à-tête, Vladimir Poutine, le président russe et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan sont parvenus à un accord sur le nord syrien. Un protocole qui exige en 6 jours le repli de toutes les forces se cure de loin de la zone frontière, soit exactement ce que souhaitait obtenir la Turquie en lançant son offensive il y a 2 semaines. Éric Biegala.
L'accord a été qualifié d'historique par Recep Tayyip Erdogan et on le comprend, s'il est appliqué dans les termes exacts dans lesquels il a été rédigé, il satisfera très exactement les buts de guerre de la Turquie en Syrie. À partir de ce mercredi midi, les forces syriennes et russes débuteront un déploiement sur toute la zone frontière turco-syrienne. Toujours au terme du protocole d'accord rendu public à Sotchi, ces forces russo-syriennes doivent veiller au repli de toutes les forces kurdes et de leur armement à 30 km en deçà de la zone frontière. Ce repli est censé être complet et achevé en 150 heures, soit un peu plus de 6 jours. Par ailleurs, les Kurdes sont censés évacuer également les villes de Manbij et Tal Rifat, qui sont déjà bien en deçà de la zone des 30 km. Quant à la Turquie et à ses supplétifs syriens, ils conserveront la bande de territoire syrien de 120 km qu'ils ont pris aux Kurdes ces 10 derniers jours. Reste à savoir si les Kurdes accepteront un tel repli de leurs forces, un repli qui s'apparenterait à une claire défaite militaire en rase campagne.
Éric Biegala et Vladimir Poutine sera demain au sommet Russie-Afrique, un sommet qui marque le retour en grande pompe de la Russie sur le continent, mené par le président russe et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Près de 50 chefs d'État ou de gouvernements africains seront présents. C'est le premier sommet de cette ampleur avec l'Afrique pour la Russie qui tente de rattraper son retard. Avec nous pour en parler, François Soudan, directeur de la revue Jeune Afrique. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, première question simple, quels sont les enjeux de ce sommet pour la Russie? Que cherche Vladimir Poutine?
Ah, c'est une question vaste, très ouverte. Alors, il cherche beaucoup de choses. Il faut lire l'interview que Vladimir Poutine, vous savez, c'est très cadré, hein, presque comme à l'époque soviétique, c'est-à-dire que il fait un sommet et il commence ça par une interview à l'agence TASS, dans laquelle il explique justement pourquoi il fait ce sommet et surtout quel est le cadrage idéologique de ce sommet. Alors, la première chose qu'il dit, Poutine, dans cette interview qui est parue donc hier dans la plupart des journaux africains, il dit, écoutez, notre pays, ça c'est la référence à l'URSS, notre pays a joué un rôle très important dans la libération du continent, on a aidé les peuples d'Afrique contre le colonialisme, le racisme et l'apartheid, bref. On a une légitimité. Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quelle est la spécificité russe dans les relations avec l'Afrique. Alors là, il est beaucoup plus, beaucoup plus précis. Il dit, écoutez, les États africains veulent mener une politique indépendante. Nous ne soumettons pas notre soutien et nos projets de développement à des conditions politiques ou autres, sous-entendu contrairement aux Occidentaux. On n'impose pas notre position. Et il dit, nous voyons de nombreux États occidentaux qui recourent à la pression, à l'intimidation, au chantage sur les gouvernements des pays souverains africains. Ça n'est pas notre cas. Eux essayent de restituer l'influence et les positions dominantes qu'ils ont perdues à l'époque coloniale et ils veulent, ça je le cite, pomper des super profits. Alors en gros, nous on est différents. Nous on ne se mêle pas de vos affaires intérieures. C'est un discours qui est un peu semblable à celui que tiennent les Chinois. Hein. Alors c'est du miel évidemment aux oreilles des présidents africains, ce genre de choses. Ça ressemble un peu aux Chinois, mais il y a une concurrence russo-chinoise. Quand Poutine dit par exemple, nous on n'a pas de préférence économique et commerciale, on n'impose pas des relations exclusives avec nos propres sociétés, on n'impose pas notre position, ça c'est un petit peu une pierre dans le jardin des Chinois.
Vous l'avez dit, la Russie se retrouve face à d'autres puissances comme la Chine. Concrètement, actuellement, où en est la position, la présence russe en Afrique?
C'est très très loin au niveau économique de la Chine, hein. C'est 16 fois moins au niveau des investissements. Bon, c'est effectivement pas grand-chose. Et puis si vous enlevez à la Russie, par exemple, les positions qu'elle a très importante dans un certain nombre de domaines en Algérie et en Égypte, il reste vraiment pas grand-chose. Ils sont présents, mais ils sont en expansion, mais ils sont présents effectivement dans les secteurs miniers, par exemple en Guinée ou en République démocratique du Congo, ils sont présents dans le pétrole au Nigeria, ils sont présents dans le diamant en Angola, et ils sont présents un petit peu à la fois dans le minier, dans le sécuritaire, dans une demi-douzaine de pays, particulièrement en Centrafrique, alors particulièrement au cœur du précaré français qui était la Centrafrique. C'est intéressant parce que c'est un petit peu un laboratoire. Ce sont des relations, gagnantes-gagnantes, telles qu'on les voit depuis Moscou, c'est-à-dire qu'on vous donne une aide sécuritaire et on vous vend des armes et en échange de ça, on se paye parce que vous n'avez pas d'argent, en obtenant des concessions, notamment dans le domaine de l'or ou du diamant, c'est le cas en Centrafrique.
Et les partenaires actuels des États africains comme la Chine ou les anciennes puissances coloniales, est-ce qu'elles ont de quoi s'inquiéter?
La Chine, pas vraiment. Je pense que la Russie a des limites précises, hein, qui sont celles de son économie. Donc elle ne peut pas rivaliser avec la manière dont travaillent les Chinois, avec les prêts à intérêt très faibles, etc. C'est très difficile. Maintenant, il y a une vraie offensive russe dans le domaine idéologique anti-française. Je pense que c'est assez important parce qu'on voit les Russes soutenir un certain nombre de mouvements nationalistes, souverainistes, à coloration panafricaine, qui, dans les ex-colonies françaises, se dressent par exemple contre l'utilisation du franc CFA. Ils veulent une monnaie indépendante, qui critiquent les interventions militaires françaises au Sahel ou ailleurs. C'est un petit peu le soft power russe qui est d'ailleurs porté par l'extension de plus en plus de médias comme Russia Today, par exemple, ou l'agence Sputnik, qui de plus en plus ont tendance à couvrir l'Afrique et multiplient des plateaux avec un peu la coloration ou la connotation que je viens de donner.
Et quelles sont les positions des pays africains? Il y a 47 États qui répondent présents à ce sommet. Est-ce qu'ils sont tous sur une même ligne ou est-ce qu'il y a des divergences entre eux?
Ils sont pas forcément tous sur la même ligne. Cela dit, on n'est plus à l'époque de la guerre froide, donc on n'est plus sommé de choisir entre un camp ou un autre. Si bien que les chefs d'État africains ont tendance à vouloir au maximum diversifier leurs relations extérieures. Et ce que je disais au début de notre entretien, à savoir le discours russe qui ressemble un peu au discours chinois, qui est un discours de non-ingérence totale dans les affaires intérieures des États, dans les processus de démocratisation ou les processus de restauration autoritaire, ils n'interviennent absolument pas. Ils ont même tendance d'ailleurs parfois à encourager les processus les plus autoritaires. Ça plaît beaucoup et je ne connais pas un chef d'État africain qui ne soit pas sensible à ce type de discours.
Merci François Soudan d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de la revue Jeune Afrique. En bref, le gouvernement bolivien propose aux observateurs internationaux de vérifier un à un les procès-verbaux des élections. Une réponse aux protestations de l'opposition contre les résultats électoraux qui donnent pratiquement vainqueur le président sortant Evo Morales. Le décompte des votes est très contesté. Les premiers résultats dimanche soir ouvraient la voie à un second tour. Mais après avoir été interrompu, un nouveau décompte largement en faveur d'Evo Morales a été publié. Un appel à la grève générale a été lancé. Et puis au Chili, le dernier bilan fait état de 15 morts lors de manifestation déclenchée il y a 5 jours initialement par la hausse du prix du ticket de métro. Après avoir décrété l'état d'urgence, le président Sébastien Piñera a finalement réuni l'ensemble des partis politiques aujourd'hui pour tenter de trouver une solution à la crise. Les suites des conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Le PDG du groupe américain a été entendu aujourd'hui, d'abord par les députés, puis par les sénateurs. L'incendie qui a ravagé le 26 septembre l'usine classée Seveso suscite toujours beaucoup d'inquiétudes au niveau sanitaire. Des milliers de tonnes de produits chimiques ont brûlé, mais le PDG de Lubrizol affirme qu'il n'y a aucun risque pour la santé. Anne Fauquemberg.
Le PDG américain l'a dit à l'Assemblée nationale ce matin, il l'a répété sous serment cet après-midi devant les sénateurs. Aucune menace, selon lui, sur la santé à court et à long terme, à part quelques gènes. Eric Schnur est traduit de l'anglais.
90% des matières sont de carbone hydrogène. Il n'y a aucune différence significative entre ce qui a été brûlé dans le feu et ce que l'on peut trouver brûlé dans un incendie, par exemple dans une maison ou même dans des maisons ou des logements. Les fumées peuvent être encore plus toxiques, mais il n'y a aucun autre impact sur la santé autre que l'irritation causée par les fumées.
Le PDG a toutefois du mal à convaincre les élus. Les questions reviennent sur l'irritation, notamment combien de temps celles-ci peuvent durer. Il dit comprendre les doutes et se dit prêt à fournir aux parlementaires les données du toxicologue de Lubrizol et celles commandées à des experts indépendants.
Anne Fauquemberg, le patron du groupe, a aussi promis des indemnisations pour les agriculteurs. Mayotte recevait Emmanuel Macron aujourd'hui. Le président s'est montré ferme face aux Mahorais, en particulier sur l'immigration illégale. Parmi ses promesses, plus de reconduites à la frontière, une meilleure collaboration avec les Comores pour éviter les départs des Comoriens qui tentent la traversée. Sur place, Yannick Falt.
Emmanuel Macron a tout de suite donné le ton dès son arrivée sur l'île. L'aéroport Dzaoudi est situé sur petite terre. C'est par voie maritime qu'il a ensuite gagné grande terre à Mamoudzou, la capitale économique de l'île. Mais pas question pour lui de traverser avec la barge qu'empruntent les habitants tous les jours. Le chef de l'État est monté à bord d'un intercepteur, un gros zodiaque utilisé par les forces de l'ordre pour débusquer les Kwasa Kwasa, ces embarcations utilisées par les passeurs comoriens. Intercepteur, dans le cadre de l'opération Chicandra lancée cet été, de nouveaux moyens humains et matériels pour tenter d'améliorer la lutte contre l'immigration clandestine et le nombre de retours à la frontière.
La France, c'est d'abord la sécurité. Il y a aujourd'hui 1500 personnes, des soldats, des marins, des policiers, des gendarmes, des douaniers. Ce seront plus de 25 000 reconduites qui seront effectuées cette année. Et donc la sécurité sera au rendez-vous en matière de lutte contre l'immigration clandestine.
Le chef de l'État, accueilli sur l'embarcadère de Mamoudzou, accueille très organisé et sous haute sécurité, avec des femmes en salouva, les tenues traditionnelles mahoraises, drapeau tricolore en main et au son des mbiwi, des bouts de bambou qui s'entrechoquent. Mais plus que le folklore local, c'est la fermeté du discours qu'on le retiendra.
Le chef de l'État se rend demain à La Réunion où un appel à la grève générale a été lancé. Patrick Balkany devant la cour d'appel de Paris aujourd'hui pour demander sa remise en liberté. Le maire de Levallois-Perret est en prison depuis plus d'un mois. La cour rendra sa décision lundi prochain. Mais Patrick Balkany restera en prison car il est sous le coup de deux mandats de dépôt dans deux affaires différentes. Et la météo pour finir, 6 départements sont en vigilance orange dans le sud de la France ainsi que l'Andorre. Vigilance orange pour les pluies et les inondations avec un pic attendu cette nuit. Au programme pluie, orage, grêle et forte rafale de vent. Ailleurs, de la grisaille sur le nord-est et le centre du pays, des éclaircies à l'ouest. Les températures demain matin de 6 à 15 degrés du nord au sud, 11 à Paris, 9 à Brest, 10 à Strasbourg et 21 degrés à Marseille. Ce journal a été préparé avec Nathalie Lopez et Jean-Frédéric Salatechnique.